Mercredi 24 mars à 18h50, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a engagé des opérations militaires en République fédérale de Yougoslavie. La France y participe aux côtés de ses alliés.
Il y a exactement 20 ans, Lionel Jospin annonçait aux Français que les forces de l'OTAN bombardaient la Serbie, accusée de nettoyage ethnique au Kosovo. C'était le début de la fin des guerres qui avaient ravagé l'ex-Yougoslavie. Entre 1991 et 2001, on dénombrera 150 000 morts, dont 2/3 de civils, 4 millions de réfugiés et des atrocités qui conduiront certains de leurs auteurs devant le Tribunal pénal international. En 2012, l'Union européenne accordait à la Serbie le statut de candidat à l'adhésion. L'Europe, alors, faisait rêver les Serbes. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à un pouvoir autoritaire. Le pays, qui comptait pas moins de 79 journaux en 1909, est désormais au 76e rang du classement de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse.
Vučiću, voleur !
Pour réclamer le départ d'Aleksandar Vučić, leur président depuis seulement 2 ans, les Serbes descendent dans la rue tous les samedis. Une instabilité politique peu propice à une adhésion sereine, d'autant que le problème kosovar reste en suspens, aucun accord n'ayant jamais été signé entre Belgrade et Pristina. L'Europe, de son côté, traverse une zone de turbulence. Montée des nationalismes et proximité du Brexit pose la question de la pertinence d'un nouvel élargissement. Élargissement auquel semble par ailleurs opposé Emmanuel Macron. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, parle, lui, de 2025 et pas avant, pour que la Serbie rejoigne l'Union.
Il faut être deux pour danser le tango, comme on dit. Et donc l'Union européenne était moins d'humeur dansante ces dernières années.
Serbie, la longue route vers l'Europe, c'est un reportage de Vanessa Descoux.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Après une petite heure de route depuis Belgrade, nous arrivons dans la Voïvodine. C'est une région qui est située au nord du pays et c'est surtout une région traditionnelle d'émigration.
Tanja Knežević, 72 godište.
Je m'appelle Tanja Knežević, je suis née en 1972 en Allemagne. Mes parents ont fait partie de la première vague d'immigration économique à la fin des années 60, qui partaient en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, etc.
Et là, on vous rencontre ici en Serbie, mais vous passez la plupart de votre temps en Allemagne pour travailler.
Je
travaille dans une famille en Allemagne. Je m'occupe d'une femme qui a 57 ans, qui a une sclérose en plaques. Et j'accomplis un travail d'infirmière, même si je ne suis pas formée pour.
Donc,
je vis dans cette maison pendant un mois et je suis à sa disposition 24 heures sur 24. En parallèle, je vais également faire des courses, je fais à manger, je m'occupe de tout l'entretien de la maison. C'est difficile parce que nous sommes en permanence humiliés, nous les femmes qui... Serbes qui travaillons en Allemagne parce qu'on nous dit tout le temps que la Serbie est un mouton noir de l'Europe et ils nous disent qu'on va gagner beaucoup d'argent, qu'on va rentrer très riche chez nous.
Pourtant, vous continuez ce travail, vous n'avez pas le choix.
Da, jer u Srbiji ja de živim, to je malo mesto, to je selo.
Je suis obligée de subir ça parce que je vis dans un petit village, il n'y a pas de travail, et même dans les grandes villes, il n'y a pas de travail, ou quand il y en a, c'est pour des périodes très courtes.
Da bi preživeo. I ti to sve progutaš. Kako da kažem?
Je n'ai pas le choix, c'est une question de survie.
Et vous subissez ça pour un salaire de combien?
Plata, što piše u nekom falšu ugovoru.
Dans ce papier qui ressemble à un contrat, mon salaire est de
1250
euros par mois. Mais en réalité, mon salaire est de 1150 euros puisque je paye une commission de 100 euros à l'agence qui me recrute ici en Serbie.
Donc,
il y a une agence en Allemagne qui a pour client des personnes qui ont un malade à domicile.
Jedno vreme su išli iz Rumunije, ali pošto je u Rumuniji zbog ulaska u Evropsku uniju.
Un temps, ce sont les Roumains qui faisaient ce travail, les femmes roumaines.
Male, oni su išli.
Mais depuis que la Roumanie a intégré l'Union européenne, ce salaire s'avère trop peu élevé pour les Roumaines parce que le niveau de vie en Roumanie a augmenté.
Du coup, ils vont chercher une agence qui travaille avec des Serbes.
Traže agenciju, al to nije legalna agencija pošto mi ne pripadamo.
Oui, mais c'est pas une agence tout à fait légale en Serbie, ce sont plutôt des entremetteurs.
Dans le village de Tanja, plus de la moitié des maisons sont inhabitées toute l'année. Pas de travail ou si peu, l'un des très rares employeurs du secteur propose un salaire de 200 euros par mois. Les retraités restent, les actifs, comme Tanja, partent en Europe. Depuis 10 ans, ils n'ont plus besoin de visa. C'était d'ailleurs la toute première avancée européenne de la Serbie. En revanche, pour le moment, ils ne peuvent pas rester plus de 3 mois consécutifs sur le sol de l'Union européenne.
Ambiance de manifestation, comme tous les samedis soirs ici à Belgrade, dans le centre de la capitale. Manifestation contre le président Vučić et plus précisément contre la façon dont il exerce son pouvoir, de plus en plus autoritaire. Vučić est donc tout le paradoxe d'être à la fois l'interlocuteur européen et en même temps, ici, vu chez lui comme un président autocrate qui écrase toutes les valeurs européennes.
Vučić, voleur!
C'est un très bon orateur et ça fait de lui un grand manipulateur. Il est autoritaire et il manie bien le mensonge.
Nous sommes avec Dejana Stočić, qui est l'une des porte-parole, l'une des organisatrices de ces rendez-vous, de ces manifestations du samedi. Dans ces manifestations, vous demandez plus de liberté au sens large du terme, mais surtout vous accusez un homme, le président Aleksandar Vučić, d'être autoritaire.
Le problème en ce moment, c'est que l'Union européenne est complètement sourde. Elle ne veut pas entendre parler des manifestations actuelles en Serbie. L'Union européenne le soutient, alors que les valeurs européennes ne sont pas en accord avec un tel comportement. Et c'est précisément ce qu'on lui reproche.
Vous vous sentez abandonné par l'Union européenne ?
Oui, un peu pour être honnête. Mais on garde l'espoir que quelqu'un nous aide à remporter ce bras de fer pour obtenir la démocratie que tout pays mérite et pour ne pas avoir un leader si autoritaire.
Belgrade n'est qu'à un peu plus de 2 heures d'avion de Paris. C'est très proche. C'est vrai que géographiquement, ça semble être l'Europe. Mais ce que vous décrivez ressemble à quelque chose de très différent.
Ça ne ressemble pas à une dictature. C'est une dictature. Dans le sens où tu n'es autorisé à faire que ce que lui ou son parti t'autorise à faire. On a par exemple le cas d'élèves en province qui ont été obligés d'aller dans des contre-meetings de soutien au président. S'ils n'y allaient pas, les membres de leur famille perdaient leur boulot. Mais à cause de la censure dans les médias, personne n'en a entendu parler. Parce que personne ne peut voir ou entendre parler de ce qui se passe en Serbie.
Je vois votre poitrine, un badge que vous avez accroché. Il dit en résumé, je suis l'un des 5 millions, c'est le slogan de ces manifestations du samedi, pour expliquer un jour, Vučić dit à la télé, oui, il y a ces manifestations, oui, il y a beaucoup de monde, mais même s'il y avait 5 millions de personnes, je ne les écouterais pas. Vous allez arriver à avoir 5 millions un jour ?
Comme vous le savez, la Serbie compte seulement 7 millions d'habitants. Mais après 3 mois de protestation, il y a désormais des manifestations dans 110 villes. C'est très très important. Et en 2 semaines, 160 170 000 personnes ont signé la pétition proposée par les partis de l'opposition. Maintenant, je crois qu'il y a 1 million ou 1,5 million de signatures au total. Mais ce que j'espère surtout, c'est qu'un jour les gens n'aient plus peur. Car aujourd'hui, les gens sont effrayés, ils ont peur de lui, ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. On en est arrivé à un point où certaines personnes ont perdu leur emploi pour avoir simplement exprimé leur avis sur Facebook. Donc la liberté n'existe pas ici.
Le cortège s'est mis en marche, on va un petit peu plus loin dans le centre-ville de Belgrade. Il y a quelques milliers de personnes en ce samedi soir, étonnamment doux pour un mois de mars. Il y a devant nous un drapeau européen, mais beaucoup plus de drapeaux serbes tout autour.
Je suis Elisabeth Vasiljević.
Ovo je najveće nezadovoljstvo u poslednjih 28 godina. Znači mi u ovoj zemlji 28 godina.
Ça fait 28 ans qu'on vit dans l'enfer dans ce pays. On a eu quelques années d'espoir entre 2000 et 2003 et en 2003 le premier ministre a été assassiné et depuis c'est de mal en pis tous les jours et quelque chose doit changer. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais là on est arrivé au pic, au summum de ce qu'on peut tolérer.
Jedan čovjek srušio je državu. Sve drži u svojim rukama.
Un seul homme a pris le pouvoir, a kidnappé l'État. Il est absolument partout. Vous ouvrez le frigo, il en sort. Vous allumez la télé, il est dessus. Vous ouvrez la porte, il est devant la porte. C'est un cas qui relève de l'hôpital psychiatrique et non pas de la direction d'un État. C'est plus possible.
Milica, vous nous accompagnez au cours de ce reportage. La manifestation de ce samedi se termine devant les locaux de la RTS, Radio-Télévision Serbe. Pour quelle raison ?
La Radio-Télévision Serbe est la Bastille, comme on l'appelle ici. C'est le symbole du manque de médias et de la désinformation et de la propagande du régime d'Aleksandar Vučić, qui a bien appris, puisqu'il était ministre de l'information à l'époque du régime de Slobodan Milošević, et qui emploie aujourd'hui les mêmes méthodes qu'il a perfectionnées. Et aujourd'hui, les manifestants sont là pour organiser symboliquement un journal libre, c'est-à-dire un journal avec des intervenants qui parleront librement des manifestations qui se poursuivent depuis maintenant plus de 3 mois.
Toutes les lumières de ce bâtiment gigantesque sont éteintes, donc on imagine un climat pas très serein à l'intérieur, parce que beaucoup de colère du côté des manifestants devant ce qu'ils appellent la propagande, la désinformation de ce média public, dont l'entrée a été tapissée d'affiches accusant le président Vučić de menteur. Et là, devant nous, là juste devant nous, il y a des manifestants cagoulés, pour ne pas être connus, qui sont en train de poser ces affiches, à même la porte d'entrée qui est complètement fermée. Tout est dans le noir derrière nous. Dans son rapport 2019, l'ONG américaine Freedom House a déclassé la Serbie, qui est passé de la catégorie des pays libres, comme ce fut le cas avant, à la catégorie des pays partiellement libres, selon ce rapport, notamment à cause des restrictions dans le domaine de la liberté de la presse. Et c'est ce qu'on va voir dans les locaux du journal Danas, ça veut dire aujourd'hui en serbe.
Aleksandar Oknić, urednik Danasa.
Aleksandar Roknić, éditeur en chef à Danas et journaliste depuis 2001.
Là, on est au milieu de la rédaction. C'est un journal qui compte 65 salariés, dont 25 journalistes. Depuis combien de temps vous faites ce métier ?
Depuis 1992.
Et vous avez déjà connu des périodes aussi difficiles que celle-ci ?
Il y a eu toutes sortes de périodes, mais celui d'aujourd'hui est peut-être le plus difficile. Parce que la solidarité entre collègues a disparu. La plupart de mes collègues ont simplement trahi tous les postulats du journalisme, tous les codes déontologiques et s'est mis au service du gouvernement.
C'est le sentiment d'être un peu seul, c'est ça ?
En totalité.
Il y a une guerre éditoriale, il y a une guerre larvée entre le pouvoir et vous. Mais il y a aussi une guerre financière. Comment vous pouvez survivre financièrement dans ce contexte-là ?
La situation financière est extrêmement difficile puisque consigne a été donnée par le gouvernement et le parti dominant, le parti progressiste serbe, de nous refuser systématiquement la participation aux appels d'offres pour les subventions. Et par ailleurs, il y a également une consigne envers ceux qui pourraient acheter de l'espace publicitaire, ce qui fait que le secteur privé a même peur de nous accorder de l'argent au nom de l'espace publicitaire.
C'est une situation qui demande quasiment de la créativité pour survivre.
C'est tout à fait cela, et également un grand nombre de donateurs, c'est-à-dire de gens qui financent de manière courageuse.
Il faut préciser quand même, parce que c'est très important, que Danas est propriétaire de ces locaux. Et c'est important parce qu'il est envisageable que le pouvoir aurait cherché une raison, une excuse pour vous expulser si ça n'avait pas été le cas.
Ça nous est déjà arrivé une fois, en 97-98, du temps du régime de Milosevic, lorsque justement le ministre de l'Information était Aleksandar Vučić, aujourd'hui président. Et à ce moment-là, les donateurs internationaux sont venus nous aider et on a pu ainsi acheter ces locaux. Donc la réponse à votre question, c'est bien sûr oui. Ça, le risque est évident que ça nous aurait arrivé si on n'avait pas été propriétaire. Et c'est d'ailleurs arrivé à des collègues récemment du quotidien qui s'appelle Les Nouvelles du Sud, auquel on a résilié le bail et non plus de lieu pour travailler.
Après 2 ans au pouvoir, Aleksandar Vučić est désormais impopulaire. Il avait été l'un des artisans de la candidature serbe à l'Union et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les électeurs l'avaient choisi. Mais les 7 millions de Serbes, dont 1 700 000 retraités, souvent pauvres, et 1 million de fonctionnaires, ont encore de gros problèmes à résoudre.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
On retrouve Vanessa Descoureaux avec Sonia Biserko, membre du comité Helsinki, une organisation non gouvernementale de surveillance du respect des droits de l'homme.
Si on regarde l'histoire très récente que traverse le pays, il y a un peu plus d'un an, un opposant a été tué au Kosovo. Il y a quelques mois, un journaliste a été battu ici à Belgrade. L'année passée, 3 avocats ont été assassinés en plein centre de Belgrade. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ?
Les élites politiques serbes n'ont pas été capables de faire un bilan de la guerre et de prendre leur distance avec Slobodan Milosevic. La majorité des gens ont continué à nourrir cet espoir qui, à mon sens, n'a aucune chance d'aboutir. Ça a amoindri les chances de la Serbie de s'ouvrir aux réformes, ce qui nous a empêchés d'aller de l'avant vers de nouvelles perspectives.
Dans un pays qui respecte aussi peu les droits de l'homme, est-ce qu'on peut envisager que les commanditaires de ces crimes, de ces actes, soient retrouvés, jugés ?
La justice est totalement contrôlée par le pouvoir. Par exemple, notre tribunal spécial pour les crimes de guerre ne fonctionne pas, ce qui était une condition première pour l'introduction d'un état de droit. La gestion des crimes de guerre et de la criminalité est la garantie que la société avance dans le bon sens. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Le tribunal a cessé de fonctionner et les autres tribunaux tribunaux sont sous contrôle du pouvoir. Donc, la plupart des citoyens en Serbie sont lésés de ce droit élémentaire. Les tribunaux travaillent lentement, avec beaucoup de retard, sans aucune garantie que justice soit rendue au profit de la victime. Entre-temps, il y a eu une forte campagne de dénigrement de ce qui s'est passé au tribunal pénal de La Haye. Et on a assisté à une révision de l'histoire, en Serbie, mais également dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie.
C'est une réécriture de l'histoire qui s'appelle du révisionnisme mémoriel, ce qui se passe en fait.
C'est une révision, non seulement des années 90, mais aussi de tout le XXe siècle, y compris sur la Yougoslavie. C'est un vrai problème, car cette rupture avec toute l'histoire du XXe siècle nous conduit dans une impasse. Aucun des problèmes qui ont conduit à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie n'a été résolu. Avec l'Union européenne, nous regardons vers l'avenir, mais en même temps, nous avons quitté une communauté similaire, dont nous étions plus proches. Nous n'avons toujours pas éclairci les raisons qui ont conduit à son éclatement. Et on se dépêche de rejoindre une autre organisation qui s'appelle l'Union européenne.
Nous ne pouvons pas admettre au sein de l'Union européenne,
Jean-Claude Juncker, mai 2018,
des pays qui n'auraient pas résolu entre eux les conflits territoriaux qu'il pourrait y avoir.
Božidar Djelić, bonjour.
Bonjour.
Vous avez occupé plusieurs fonctions ministérielles au sein de différentes administrations dans le gouvernement serbe et vous avez été notamment vice-premier ministre serbe en charge de l'Union européenne. Est-ce que l'Europe a envie de la Serbie? Même si le processus technocratique est lancé, est-ce que ce désir-là, de l'autre côté, du côté européen, est là?
Non, je ne pense pas qu'il y ait un grand désir, mais je pense qu'il y ait à minima une compréhension de l'idée qu'il y a un intérêt à européaniser les Balkans et à les intégrer. Regardez la carte. Les Balkans occidentaux sont encerclés par l'Union européenne. Il va bien falloir qu'ils se rendent une fois encerclés. Il faut être deux pour danser le tango, comme on dit. Et donc l'Union européenne était moins d'humeur dansante ces dernières années.
Quand vous étiez aux affaires, qu'est-ce que vos interlocuteurs de l'UE vous disaient? Ils vous parlaient plus de performance économique, budgétaire, fiscale, ou ils revenaient à cette question qui est un dogme pour l'Europe du Kosovo. Qu'est-ce que vous entendiez de la part de vos interlocuteurs européens?
Ah non, moi à l'époque c'était le tribunal de La Haye. C'était le fait qu'on n'avait toujours pas trouvé et extradé les quelques fugitifs. J'ai fait partie du gouvernement et j'ai voté pour l'extradition à la fois président Milošević, de Mladić et de Karadžić. Et après donc ce débat a été un peu clos parce que la Serbie a intégralement respecté ses engagements.
C'était le premier impératif européen.
Oui, c'était le premier parce que évidemment, on sortait de ce conflit, même si tous ceux qui étaient autour de la table du gouvernement n'avaient rien à voir avec ce qui s'était passé. Bien sûr, il y a une obligation d'État et on l'a respectée. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais pour revenir à ce qu'ils me demandaient, bien sûr, c'était ça. Et puis après, il y avait des questions de bon voisinage. C'était pas encore comme aujourd'hui le Kosovo, mais il était là. La priorité est telle sur la question du Kosovo, en ce moment, que les autres questions que vous avez mentionnées, l'indépendance du judiciaire et avant tout la liberté des médias, là il y aurait beaucoup à redire en ce moment et je trouve l'Union européenne très timide car pour l'instant c'est avant tout le Kosovo et surtout le Kosovo.
Le destin serbe vis-à-vis de l'Europe passe forcément par la question du Kosovo?
C'est ainsi que l'Union européenne le définit avec les États-Unis. Ce qui est clair, c'est qu'un certain nombre de membres de l'Union européenne plus ou moins ouvertement, demande à la Serbie de reconnaître le Kosovo comme pays indépendant afin d'intégrer l'Union européenne. D'un point de vue européen, cela peut se comprendre après l'échec cypriote, car c'est un pays divisé qui est entré, et la promesse qui était qu'ils allaient en fait résoudre tout ça peu de temps après l'intégration, en fait, on voit bien, n'est toujours pas une réalité. Mais d'un point de vue serbe, évidemment, le Kosovo a une très très forte charge émotive et a une grande importance religieuse, culturelle, historique, bien sûr. Et donc l'idée de donner le Kosovo pour rentrer dans l'Union européenne n'est pas une idée qui passe. Ce qui est clair, c'est que on doit trouver une solution, non pas pour rentrer dans l'Union européenne, mais pour vivre en paix dans le XXIe siècle. Donc la clé, une des clés, et probablement la clé principale de la paix dans les Balkans, passe par un accord durable entre Serbes et Albanais.
Et c'est l'origine même du projet européen, la paix sur le continent.
Bien sûr, c'est là qu'il y a une certaine synergie. Et effectivement, l'idée d'être demain autour d'une même table, c'est le véritable projet positif pour tous les peuples qui vivent dans les Balkans. Mais c'est aussi quelque chose qui est positif pour l'Europe elle-même. Aujourd'hui, en particulier en Serbie, la démocratie est sous très forte pression du pouvoir et l'Union européenne n'aide pas autant qu'elle pourrait, et elle devrait le faire. Il ne faut pas vendre la démocratie pour le Kosovo. D'un autre côté, la perspective plus lente et moins gaie, mais réelle, est d'un intérêt commun et je pense qu'elle aura lieu.
Nous arrivons dans le réfectoire de la faculté de philosophie de Belgrade, le lieu donc préféré des étudiants. Nous sommes attablés dans ce réfectoire avec trois étudiants en sociologie, Maria, Nenad et Anya. En un mot, vous pensez quoi du projet européen de l'adhésion de la Serbie à l'UE ?
Za.
Pour.
Protiv.
Contre.
Protiv.
Contre.
Nous voilà avec deux étudiants contre et une pour. On va commencer par la minorité, celle qui est pour l'adhésion européenne. Maria, pour quelles raisons vous croyez encore à ce projet, à cet idéal européen ?
D'un point de vue personnel, bien sûr, j'attends un changement au sens où je pense pouvoir circuler beaucoup plus librement et par ailleurs, mon diplôme et toutes mes études seront reconnues de manière plus facile et plus automatique si la Serbie fait partie de l'Union européenne. Par ailleurs, la circulation, la mobilité elle-même, que ce soit des services ou des biens, sera nettement améliorée. On n'aura pas, comme aujourd'hui, des heures et des heures d'attente pour la frontière, pour la circulation des biens.
Nenad, on a l'habitude de penser, c'est visiblement faux de dire ça, que les jeunes seraient plus porteurs de ce projet européen. Là, la table prouve exactement l'inverse. Pour vous, l'idée, c'est qu'il y a plus à perdre qu'à gagner en cas d'adhésion.
Oui, je suis sceptique face à la globalisation et je pense que la démocratie n'est possible que dans un système d'États souverains, nationaux. L'exemple des pays de l'Europe de l'Est démontre qu'on perd plus qu'on ne gagne en adhérant à l'Union européenne. Par exemple, la Bulgarie a perdu plus de 2 millions d'habitants en 10 ans. Et j'ai peur que l'intégration de la Serbie ne fasse qu'augmenter une immigration déjà forte. La Serbie deviendrait un pays de vieux encore plus rapidement. Ce qui, dans le futur, augmenterait les difficultés de notre système de paiement de retraite.
Anya, contre l'adhésion, a quelque chose à préciser ?
L'UE
n'a offert aucune solution pour lutter contre les nationalismes. Elle les a au contraire renforcés. Sur la crise migratoire, par exemple, on voit à quel point certains pays de l'Union européenne se comportent en forteresse et laissent des milliers de migrants se noyer dans les eaux de la Méditerranée. Regardez un pays comme l'Italie, qui a choisi un Premier ministre qui considère que l'Italie n'est faite que pour les Italiens. Je pense que la solidarité internationale est indispensable, mais que l'Union européenne est incapable de la fournir.
Jovo Bakic, assistant professeur à la faculté de philosophie de Belgrade.
Aujourd'hui, sur la scène politique intérieure en Serbie, l'adhésion à l'Union européenne n'est plus une ligne de rupture, ce n'est plus un débat, c'est acquis quasiment pour tous les grands partis.
Oui, ça c'est vrai. Maintenant, il reste à savoir en quoi l'Union européenne se transformera et qui gagnera aux élections de mai prochain. Si ce sont des partis de droite, voire d'extrême droite, qui obtiennent la majorité, je dois vous dire que moi qui ai été très positif à l'égard de l'Union européenne, et ce depuis que c'est la CE qui s'est transformée en Union européenne, je n'aimerais pas que la Serbie fasse partie de cette union.
Il
y a des valeurs qui sont supérieures à l'Union européenne elle-même. Ce sont des valeurs d'égalité, fraternité, liberté que j'imagine chaque Français connaît. Et ce sont des valeurs que je partage. Si l'Union européenne ne les partage plus, je ne vois pas pourquoi je soutiendrai cette Union.
En cas de Parlement brun, on va le résumer ainsi, si les courants d'extrême droite devaient mettre la main sur une majorité de ce Parlement européen, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ici en Serbie ?
Utjecaj Rusije će ojačati, zato što, kao što znate, Rusija je financirala nacionalni front.
Cela renforcera l'influence de la Russie, puisque la Russie a financé, j'imagine que vous le savez, le Front National en France, tout comme elle a financé des organisations similaires en Allemagne et en Autriche.
Donc, ona će svakako pojačati uticaj i u Srbiji, a čitava politika će ići u jednom xenofobičnom.
Et dans ce cas, le résultat pour la Serbie sera une xénophobie et un nationalisme renforcé.
Donc un retour en arrière.
Možda će biti skok u nas.
Ce sera peut-être pas qu'un retour, ce sera un saut en arrière.
Povratak u prošlost, ali
la question est de savoir à quel point on ira en arrière dans le passé. Moi, j'ai peur que le futur soit encore plus difficile que les années 90 et que finalement on retourne non pas en arrière dans les années 90, mais en arrière dans un passé qu'ont connu nos parents.
Les Serbes pro-européens craignent donc une forme de régression. Et ils ont sans doute raison car, historiquement, la Serbie a connu dans la période récente de grands bouleversements qui, à chaque fois, l'ont conduite vers des impasses. Du coup, leur envie de changement s'est émoussée. Ils accueillent donc la perspective d'une adhésion à l'Europe avec circonspection, comme vous allez l'entendre dans la suite de ce reportage de Vanessa Descours.
Interception sur France Inter.
Je m'appelle Veljko Stanić, je suis historien.
Votre regard d'historien nous permet de comprendre que l'État serbe n'a jamais su se moderniser.
Je dirais que c'est la grande partie du problème. C'est une modernisation inachevée, je dirais. C'est toujours la volonté de créer des institutions modernes, de préserver la loi, le respect de la loi, la liberté des médias. Donc ce sont les défis, ce sont les enjeux qui se posent et qui se posaient il y avait presque 20 ans avec la chute du régime de Milošević. Qui se posait à la fin des années 80 avec la chute du communisme.
Mais à chacune de ces échéances, rien n'a changé.
Pratiquement rien.
Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, cette incapacité chronique à se réformer ?
Je pense qu'on peut parler d'un déficit dont l'élite politique, pendant 3 dernières décennies, je dirais qu'il y a la faute aux communistes. Le régime de Tito a éliminé l'opposition au sein du parti. Évidemment, après tout cela, les gens qui restaient au pouvoir n'étaient pas vraiment les gens de vision, des grands penseurs, des grands stratèges, n'est-ce pas ? Et il y a toujours ce passé qui ne passe pas, évidemment. On ne sait pas vraiment quoi faire avec ce passé yougoslave. Tout cela contribue à la montée des tensions.
Mais sur le terrain de l'ex-Yougoslavie, des guerres de l'ex-Yougoslavie, si l'on prend un exemple comme celui de la Croatie, ça n'a pas empêché ce passé douloureux, là aussi, de permettre à la Croatie de rejoindre l'Union européenne. Ce qui n'est pas possible pour la Serbie. Donc il y a une spécificité serbe.
La Serbie est sortie vaincue des guerres qu'elle avait déclenchées en grande partie. Cette expérience d'un vaincu n'a pas facilité ce processus. La Croatie a évidemment rejoint l'Union européenne, mais elle a aussi de graves problèmes.
Pour dire les choses brièvement, la Serbie souffre-t-elle de son image d'il y a quelques décennies, de mouton noir du continent, de cette nation mise au banc, à l'écart, pour avoir effectivement déclenché une partie de ses conflits ici régionaux? C'est encore cette image-là qui lui colle à la peau?
Je pense qu'on n'est pas vraiment sorti de cette image-là. Je pense que c'est un des problèmes, et je dirais que c'est plutôt le problème de l'élite intellectuelle qui n'a pas vraiment remodelé l'image de la nation. Bon, je dirais que l'élite intellectuelle reste ou redevient même plus nationaliste qu'auparavant.
Dans ce long cheminement pour la Serbie vers l'Union européenne, nous allons désormais nous intéresser à la dimension économique de ce dossier avec Miša Berkić. Il est journaliste spécialiste des questions économiques. Quel est le principal partenaire économique de la Serbie ?
Lorsqu'il
est question de capital, de savoir, de matériel, d'infrastructure, c'est bien l'Union européenne qui est un partenaire irremplaçable de la Serbie. Même lorsqu'il est question de donations, de subventions.
Ce n'est pas la Russie, on pense être pourtant dans une zone d'influence russe.
Considérer la Russie comme un partenaire économique important de la Serbie est une attitude politique. C'est une erreur de jugement des élites politiques serbes que de vouloir répartir l'influence économique de ses partenaires entre l'Union européenne, la Chine et la Russie et tenter de cette manière un jeu d'équilibre. Ce sont de mauvais messages que la Serbie envoie ainsi à l'Union européenne qui consiste à penser que la Serbie est une alternative à l'Union européenne.
Les liens économiques entre la Serbie et l'Union européenne sont d'autant plus forts qu'il y a une diaspora importante qui a quitté la Serbie, qui travaille désormais en Europe. Ça aussi, ça crée des liens encore plus proches.
Traditionnellement, les Serbes partent vers l'Union européenne. Cela fait 45 ans que des générations ont quitté la Serbie pour s'installer en Europe. Et cette nouvelle vague qui part depuis une dizaine d'années s'installe également en Union européenne. Ces gens ne ramènent pas en Serbie seulement des finances, seulement des deniers. Ils ramènent également la culture et des valeurs.
Cet exode a un coût économique aussi pour la Serbie.
La dernière génération qui quitte la Serbie ou qui l'a déjà quittée, ce sont des gens qui sont très qualifiés et éduqués et dans lesquels nous, citoyens et l'État tout entier, avons investi pendant des années pour qu'ils arrivent à ce niveau de formation. Nous sommes un pays qui, aujourd'hui, a un manque de personnel qualifié, y compris d'ouvriers. Un bon exemple en est la question de l'installation de Volkswagen en Serbie. On raconte que cette compagnie pourrait embaucher 5000 ouvriers, mais en Serbie, nous n'avons pas 5000 ouvriers qualifiés pour l'industrie automobile.
Voilà, arrivé dans la ville de Bor, c'est à 250 km environ de Belgrade, et c'est l'une de ces très nombreuses villes moyennes du pays qui se dépeuple, qui se vide littéralement de ses travailleurs, puisqu'ils partent s'installer en Europe. Une petite image rapide en arrivant dans la ville, c'est beaucoup de commerces fermés, l'impression d'une ville qui est quelque peu figée dans le temps, et pour avoir une idée plus précise, il faut savoir qu'à Bor, en moins de 10 ans seulement, la population a diminué de 15% selon le dernier recensement officiel.
Je m'appelle Dragan Mijevković. Je fais partie de la première génération à avoir monté sa propre entreprise, puisque ce n'était pas possible du temps du communisme. Et nous avons commencé vraiment à partir de rien. Ici, il y avait un champ avant la construction de notre usine.
Alors, c'est une usine qui construit des fils de cuivre. Vous employez combien de personnes ?
Nous fabriquons des fils de cuivre, mais également des profils, des câbles, bref, tous les produits dérivés du cuivre. Nous produisons 12 000 tonnes par an et j'ai 75 employés.
Est-ce que vous avez des difficultés à recruter sur certains profils ?
Pour l'instant, ça va. Car nous avons formé nous-mêmes nos ouvriers.
kod nas prvi put počeli da rade i tako su edukovali uz rad. Imamo jako ovaj
Mais ça va devenir difficile en cas d'expansion.
Prepoznamo ljude koji bi mogli raditi ove poslove koje
Parce que ce ne sont pas des capacités physiques qui sont requises, mais des capacités intellectuelles. Sachant que l'usine est de plus en plus automatisée, ce sont des ordinateurs qui gèrent la mécanisation de l'usine.
Donc des difficultés sur des cadres supérieurs.
Da, pa verovatno da, obzirom da smo mi ipak grad.
Oui, nous avons un handicap de plus. Car nous sommes en province, loin de Belgrade. Donc on a encore moins de choix sur le marché du travail.
Si Dragan travaille dans le secteur du cuivre, c'est parce qu'ici, à Bor, il y a la plus grande mine de cuivre du pays. Pour la petite histoire d'ailleurs, ce sont les Français qui ont commencé à l'exploiter. C'était au tout début du XXe siècle. Aujourd'hui, ce sont des Chinois qui ont racheté cette société. Et on va faire une rapide visite des lieux avec Dragan.
Voilà, donc là c'est le restant de la mine. Tout ce qui est de couleur rouge, c'est le minerai. Et le reste qui n'est pas rouge, c'est ce dont on n'a pas besoin en fait.
C'est gigantesque.
Ovo će biti najveći rudnik. Ovo je stari taj površinski rudnik, evo ga.
To je. Sera le plus grand, la plus grande mine d'Europe.
Tanjali.
Là on est devant une partie seulement hein, qui est exploitée et c'est déjà absolument gigantesque devant nos yeux. Tellement à perte de vue, la terre est travaillée, creusée pour y trouver ce cuivre qui fait la richesse supposée en tout cas de Bor. On vous retrouve, Dragan, après cette visite de la mine. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous arrivez à faire tourner votre usine grâce à la Chine ?
Absolument. Je peux même vous montrer le contrat que j'ai signé il y a 3 jours avec la nouvelle direction chinoise des mines, qui me permet d'acheter la matière première, du cuivre, alors que ça faisait 7 ans que je n'arrivais plus à l'acheter ici. J'étais obligé d'aller à 300 km. Et ce contrat me permet d'acheter le cuivre selon des principes économiques standards.
Aujourd'hui, vous avez plus de business avec la Chine ou avec l'Union européenne ?
Je ne peux pas dire que ce soit la Chine ici. Ce sont des Chinois qui sont propriétaires, mais nous sommes en Serbie. Et c'est avec l'Union européenne que je fais la majorité de mon commerce.
Parce que vos fils vont où après ?
Nous vendons sur le marché local, aux pays de l'ex-Yougoslavie et partout en Union européenne. France, Allemagne, Bulgarie, Italie, Roumanie, Slovaquie.
La Chine mène également de très nombreux projets d'infrastructures. Tous ces accords suscitent l'inquiétude de Bruxelles face à l'influence grandissante de Pékin dans la région.
Pour ce qui est de la Serbie,
Emmanuel Macron, juillet 2018.
Elle est dans un cas particulier puisqu'elle a entamé les négociations en matière d'adhésion et une date a été donnée comme un point de référence. Je ne pense pas qu'il faille voir cette date comme un critère automatique.
Cette date, c'est 2025, annoncée par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Mais aujourd'hui, toute la question est de savoir si l'élargissement de l'Union européenne est encore à l'ordre du jour. Nous retrouvons pour cela Božidar Đelić, l'ancien vice-premier ministre serbe en charge de l'intégration européenne.
Pour tout vous dire, lorsqu'on a négocié l'accord que j'ai eu l'honneur de signer en 2007, on se disait qu'on allait être membre en 2013-14. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a le cycle budgétaire européen et donc il est beaucoup plus facile d'avoir des nouveaux membres au début du cycle qu'au milieu. Et le problème, c'est que, comme la Grande-Bretagne le voit, il y a un nouveau cycle qui va démarrer et on va aller, si je me souviens bien, jusqu'au 2027-2028. Quand j'étais aux affaires, j'étais très critiqué pour donner des dates. J'ai pas envie de le faire maintenant que je n'ai plus aucune responsabilité politique, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ce qu'a dit M. Juncker pourrait être une date, pourrait être une date correcte. Alors évidemment, comme l'a dit le président Macron, comme l'a répété Mme Loiseau à Belgrade il y a quelques jours, ça ne dépend pas que de la Serbie. Ça dépend aussi de la capacité de l'Union européenne elle-même à absorber le Brexit. Au fond, à proposer une nouvelle architecture qui puisse fonctionner non plus seulement à 27, mais peut-être à 32, à 33.
On a quand même le sentiment d'une union qui se fait à marche forcée dans les deux côtés, en fait. C'est pas quelque chose de naturel.
Oh, ce sont des processus qui sont longs. Les gens disent, oui, la Bosnie marche pas. Oui, mais depuis les accords de Paris, il n'y a pas eu un seul mort. Voilà. Est-ce que le développement aurait pu être meilleur? Oui. Mais on a arrêté les tensions. Et cette perspective permet à la fois aux trois communautés principales du pays, les Bosniaques, les Serbes et les Croates, d'avancer. Et pour la Serbie, c'est la même chose. Vous avez aujourd'hui une administration serbe de meilleure facture grâce aussi à l'ancrage européen. D'un autre côté, on n'en est plus ni au sein de l'Union européenne, ni du côté des Balkans, au moment de l'idée romantique que tous nos problèmes seront résolus une fois qu'on sera rentré. Pas du tout. Ils voient bien que ni la Bulgarie, ni la Croatie, ma foi, ni la Pologne, et parmi les États membres de l'Union européenne, prenez l'Italie ou le Portugal ou l'Espagne, ce n'est pas non plus le paradis sur Terre. Donc, ce que je pense, c'est que ce processus aurait pu être plus facile, plus rapide, pour des tas de raisons qui ont avant tout trait aux complications de la zone, mais aussi les difficultés de l'Union européenne elle-même. Tout ça n'est pas aussi gai et aussi rapide que ça aurait pu l'être, mais en fait, ça va se passer.
Les bans sont publiés, mais la date de la noce est donc encore très loin d'être arrêtée. Serbie, la longue route vers l'Europe, c'était un reportage de Vanessa Dekuro avec Milica Ciubrilio.
À cause de toi, il va boire, sinon il
boirait pas.
Réalisation Violaine Ballet, assistée de Marion Philippe.
Je vais prendre en photo pour qu'il voit un peu à France Inter ce que tu fais le dimanche.
Mixage Julien Michel.
C'est une raki qui a 6 ans. 14 degrés.
À la semaine prochaine.
Chin chin, chin chin, chin chin.
Pourquoi toi t'en as pas, Mixa?